France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Devenu au cours des 30 dernières années un marché extrêmement dynamique, duquel raffolent les investisseurs, le football n'est pourtant pas toujours un domaine rentable au sens strict du terme. On peut se demander par exemple pourquoi les propriétaires venus du golf, comme ceux de Manchester City ou encore du Paris Saint-Germain, versent des milliards pour avancer les fortunes de clubs sans tirer de profits financiers directs. Investir dans le football n'est pas qu'une simple question d'argent, c'est aussi une question d'image, de soft power, comme on l'entend souvent dans les médias. Le ballon rond est aussi devenu un instrument politique, sur lequel s'appuient certains et certaines pour accéder au pouvoir. On pense par exemple aux liens qui unissent Silvio Berlusconi à l'AC Milan. Ce numéro du cabinet de curiosité de Vincent Kivi et Emmanuel Hirsch, réalisé par Malika Mezgache, diffusé pour la première fois le 30 juin 1998, est intéressant tant par son contenu que par sa date. En effet, à la veille de la Coupe du Monde 1998, le chercheur en économie du sport Jean-François Bourg explique les mécanismes qui régissent l'investissement dans le football, prédisant en quelque sorte les premiers rachats majeurs de clubs par des businessmen étrangers, comme Roman Abramovich à Chelsea en 2003. Une émission synthétique et pédagogique à l'aube de la mondialisation et de la financiarisation du football, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Voici bientôt 4 longues semaines que les gens normaux, j'entends les gens issus de la norme, avec 2 bras et 2 jambes pour signifier qu'ils existent, subissent à longueur d'antenne les dégradantes contorsions manchottes des hordes encalçonnées sudoripares qui se disputent sur gazon l'honneur minuscule d'être les champions de la balle au pied. Voilà bien la différence entre le singe et le footballeur. Le premier a trop de mains ou pas assez de pieds pour s'abaisser à jouer au football. Le football, quel sport est plus laid, plus balourd et moins gracieux que le football? Quelle harmonie, quelle élégance l'esthète de base pourrait-il bien découvrir dans les trottinements pataux de 22 handicapés velus qui poussent des balles comme on pousse un étron en haranant des râles vulgaires de bœufs éteints? Quel bâtard en rut de quel corneau branlé oserait manifester publiquement sa libido en s'enlaçant frénétiquement comme ils le font par paquets d'huîtres à grands coups de pattes grasses et mouillées en ululant des gutturalités simiesques à choquer un rocker d'usine? Quelle brute glacée! Quel monstre décérébré de quel ordre noir oserait rire sur des cadavres comme nous le vîmes en vérité certains soirs du Hazel où vos idoles, calamiteux goalistes extatiques, ont exulté de joie folle au milieu de 40 morts piétinés, tout ça parce que la babale était dans les bois. Je vous hais, footballeur, vous ne m'avez fait vibrer qu'une fois, le jour où j'ai appris que vous aviez attrapé la chiasse mexicaine en suçant des frites aztèques.
Sur la pelouse, il s'agite en des gestes purs. Il joue, à courir derrière une balle, à être plus fort, plus vif que leurs adversaires. Mais chacun de leurs gestes instinctifs est payé à prix d'or, car le football, qu'ils pratiquent, génère des millions de bénéfices. Médias, industries, institutions se battent pour verser leur obol au sport le plus populaire du moment. Le football, disait Alfred Wahl, est un reflet du capitalisme. Le football est un marché.
Alors Jean-François Bourg, peut-être la première question qu'il faut se poser sur le football et l'argent, c'est pourquoi finalement ce sport, qui apparaît comme un autre a priori, attire autant d'argent par rapport à d'autres sports qui, eux, restent quand même bien au-delà de toute cette masse financière?
Je crois que la première raison est un peu d'ordre sociétal, sociologique, puisque c'est un nouvel espéranto en quelque sorte. Il est pratiqué dans 200 pays au monde. La FIFA comprend plus de pays membres que l'ONU. Donc je crois que c'est ça, c'est un langage universel qui permet donc aussi bien pour les chaînes de télévision, les sponsors, que les opérateurs économiques de communiquer sur toute la planète. Donc cette globalisation, c'est le slogan d'ailleurs d'Adidas, football is global, et la clé à mon avis de la réussite et de la marchandisation entre guillemets du football. Je crois que c'est la raison majeure. Partout, dans tous les pays du tiers-monde, dans les pays développés, la Coupe du Monde va être un moment magique où tout le monde sera devant son téléviseur.
Alors, d'une manière assez concrète, on peut se poser la question, d'où vient l'argent? Pourquoi il est investi? Et où va-t-il finalement, cet argent?
C'est vrai que pour faire un petit historique du football business, il y a une vingtaine d'années, c'était vraiment le spectateur qui était le financeur numéro un du foot. Et 50 à 60% de l'argent du football provenait du spectateur. Maintenant, on peut dire que la filière est inversée. Autrement dit, c'est le sponsor et les chaînes de télévision qui représentent les deux tiers du financement du football, le reste étant apporté par les collectivités territoriales et bien sûr par le spectateur qui reste marginal, mais malgré tout qui a une importance assez importante d'un point de vue soutien déjà à son équipe. Donc je crois que le phénomène majeur, le renversement de cette filière de financement explique beaucoup de choses. Il y a une conversion depuis quelques années du football à l'économie de marché. On le voit récemment avec les cotations en bourse, on le voit avec l'entrée dans les clubs d'entreprises prestigieuses, Philips à Eindhoven, Fiat bien sûr à la Juventus de Turin, avec le groupe Fininvest de Berlusconi à Milan, Canal Plus en France, McCormack au Benfica de Lisbonne, etc. Donc il y a vraiment un nouvel âge du football qui s'explique par la pénétration de ses intérêts économiques.
Alors comment s'est fait ce renversement finalement et pourquoi s'est-il fait véritablement à cette époque-là ?
Il s'est fait au milieu des années 80 parce qu'il y avait une conjonction d'éléments favorables. D'abord, les chaînes de télévision, dans leur concurrence, se sont précipitées sur ce produit qui était un gisement d'audience fabuleux. D'une part, il y a eu donc l'apparition de nouvelles chaînes de télévision à Canal+, la privatisation de TF1 en France, qui également ont jeté l'huile sur le feu d'un point de vue concurrence et fait monter les enchères. Je crois que c'est la raison majeure. Et les sponsors également ont trouvé un intérêt puisque l'audience du foot étant très forte en France, en Europe et dans le monde, se sont précipités sur ce produit qui était à l'époque pas très cher. Et donc il y a eu finalement une inflation des budgets des clubs et bien sûr, on en reparlera, mais les sportifs et les footballeurs en ont profité.
Alors, l'historien du football Alfred Wahl disait que pour lui la naissance du football correspond aussi à la naissance du libéralisme en Europe. Est-ce que la masse d'argent qui arrive dans les années 80 dans le football est aussi le symbole de finalement une nouvelle conception du libéralisme et du capitalisme ? Est-ce que c'est pas ces années fric, on les retrouve pas finalement dans le football ?
Tout à fait, c'est vrai que d'un point de vue historique, il faut pas oublier que le berceau du capitalisme et du football, c'est l'Angleterre. Donc c'est pas pour rien d'ailleurs que les clubs cotés en bourse ont fait leur apparition en Angleterre. Donc c'est vrai qu'il y a, c'est la fin du 19e siècle, le début de l'ère industrielle, et puis maintenant on peut dire qu'il y a une nouvelle forme de capitalisme qui est basée sur les ressorts de la communication, de l'information, du numérique. Donc le football se prête très bien, en plus c'est un spectacle permanent, c'est un gisement d'audience inépuisable, et en plus il y a une dramaturgie, il y a une incertitude du résultat, tous ces ingrédients font qu'il colle bien à l'esprit du temps, à l'ère du temps.
À la fois, vous évoquiez Lagardère, ou on peut évoquer Tapie, ou d'autres grands chefs d'entreprise qui ont investi dans le football des sommes considérables et qui, pour autant, n'ont pas toujours retiré les profits qu'ils espéraient. Alors, est-ce que véritablement c'est une entreprise qui est rentable ou c'est pour beaucoup une sorte de danseuse, une vitrine finalement d'une entreprise et qui pour autant n'est pas forcément rentable?
C'est vrai que l'exemple de Lagardère est intéressant puisque Lagardère, lorsqu'il s'intéresse aux 24 heures du Mans ou au sport automobile, réussit. Parce qu'il a une logique industrielle, autrement dit, en recrutant les meilleurs ingénieurs, en ayant les meilleures voitures, on peut gagner dans les sports automobiles. En football, dans les sports collectifs, c'est moins évident. Son échec, d'ailleurs, est flagrant. Donc, tel que le sport et le football sont organisés en Europe, il est certain que un industriel qui voudrait retirer financièrement des gains prendrait des risques. Alors qu'aux États-Unis, c'est une logique totalement économique, où la recherche de profit est la recherche la plus importante. Donc, je crois que c'est très incertain. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des groupes industriels qui s'intéressent au football, mais pas forcément pour gagner de l'argent. Berlusconi, par exemple, en Italie, c'est plutôt pour son image de marque ou la conquête du pouvoir politique qui s'intéressait à l'AC Milan et au football que dans un espoir de gains financiers. Alors qu'aux États-Unis, la logique est totalement la recherche de gains financiers, même avant la recherche de gains sportifs, de conquête de titres.
Pourquoi êtes-vous énervé, Michel ?
Bah, c'est à cause de cette saloperie, là, les nantis, ça gagne des fortunes, ça voyage, c'est bronzé toute l'année, ça va nous gâcher la Coupe du Monde, salaud, hein ?
Ah, vous parlez des joueurs de l'équipe de France ?
Non ! Les pilotes d'Air France, là ! On n'a pas le droit de faire la grève pendant ma Coupe du Monde !
Mais c'est vrai que c'est perturbant, mais c'est un conflit social.
Non ! On n'a pas le droit, malheureux !
Michel, tout ne peut pas s'arrêter pendant la Coupe du Monde.
Si ! Il n'y a pas de conflits sociaux qui tiennent. À la Coupe du Monde, tout s'arrête, mon Dieu. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de famine, il n'y a plus de ZF.
Michel.
Non ! Personne ne me gâchera ma Coupe du Monde. Salaud ! Fini la rigolade, fini de s'amuser. Maintenant, on fait la fête.
Bon, enfin, calmez-vous, ça n'est qu'un jeu.
Un jeu ? Redis ça, je te claque, toi.
Et enfin, tiens-moi.
Fais la fête, je te dis, salopard.
Hein ?
Danse, dis-le de Dieu.
Oui, oui, oui.
Ah, et chante aussi. Allez.
Allez les bleus, allez les bleus.
Ah, cette folie. Au prix que ça coûte, personne ne me la cachera, ma côte du monde. T'entends, racaille. Ni les pilotes, ni le public, ni personne.
Michel, je peux m'arrêter d'être content maintenant, j'ai des nouvelles à donner.
Non, t'as pas de nouvelles, y'a que le ballon.
Vous évoquiez tout à l'heure donc les gens qui mettaient l'argent dans le football, mais finalement on n'a pas abordé les gens qui retiraient de l'argent de ces investissements. Alors par exemple, pour les footballeurs, qu'est-ce qui a changé dans cette organisation financière ?
C'est vrai que ce sont tout au moins les vedettes, ce sont eux les principaux gagnants, puisque les meilleurs footballeurs français qui évoluent d'ailleurs à l'étranger gagnent environ 10 millions de francs par an, alors qu'il y a quelques années, c'était 1 million de francs par an, 100 000 francs par mois. Donc il y a eu en une dizaine d'années une multiplication par 10 du revenu des stars du football. En revanche, pour les anonymes, la situation est moins brillante, puisque leur durée de carrière est beaucoup plus courte. Ils sont soumis à une concurrence très forte des jeunes issus des centres de formation, qui coûte peu cher. Et évidemment, les clubs ont intérêt, pour baisser le prix moyen du coût du travail, à avoir des vedettes, mais à côté aussi des joueurs qui sont jeunes, qui sortent des centres de formation et qui sont peu coûteux.
C'est-à-dire que tout cet apport financier, finalement, a été au détriment de la plus grande partie des joueurs ?
C'est vrai que la masse des porteurs d'eau, entre guillemets, des joueurs qui ont un statut souvent défensif, qui sont pas valorisés par un statut offensif et marqueur de but, sont les grands perdants. Ils ont des durées de carrière très courtes, 3, 4, 5 ans, alors qu'il y a quelques années, c'était une dizaine d'années. Et en plus, leurs revenus sont quand même beaucoup plus faibles que les grandes vedettes.
Et justement, pour les grandes vedettes, il y a eu une inflammation finalement des salaires, les transferts ont été de plus en plus chers, il a fallu mettre de plus en plus d'argent. Est-ce que c'était viable ? Est-ce qu'on n'est pas allé au-delà de ce que les clubs pouvaient payer, de ce que les clubs pouvaient avoir comme rentabilité avec ces joueurs-là ?
Dans les années 80, il est vrai que le football français a vécu au-dessus de ses moyens. Il y avait des déficits gigantesques. La plupart des clubs étaient en déficit et le déficit cumulé dépassait 1 milliard de francs. Heureusement, grâce à l'action de la Direction nationale de contrôle de gestion, qui est une instance de régulation, qui sanctionne, qui interdit aux clubs de pouvoir recruter, par exemple, ou qu'il rétrograde dans la mesure où il y a des déficits très importants, il y a eu un assainissement et maintenant le football français est à nouveau excédentaire. C'est vrai. Mais on peut dire que le football français aussi a récupéré beaucoup d'argent en vendant ses joueurs à l'étranger. Donc c'est sûr qu'il y a eu une entrée de capitaux, un appauvrissement d'un certain côté du point de vue sportif, mais une rentrée financière dans la mesure où les 40 meilleurs joueurs pratiquement français évoluent à l'étranger.
Donc, est-ce que c'est pour ça justement qu'ils jouent à l'étranger ? C'est parce qu'en France, le contrôle de gestion est plus important ?
C'est surtout que le pouvoir financier des clubs à l'étranger et la fiscalité changent complètement. Un joueur qui perçoit donc 100 francs en France, il lui en reste 50 francs, alors qu'en Angleterre ou dans les pays latins, il lui en reste 80 ou 90 francs. Parce que d'abord, les clubs souvent paient les impôts, et en plus, la fiscalité est plus douce dans certains pays comme l'Angleterre. Donc là aussi, il y a un problème d'harmonisation, sinon certains footballs comme le football français vont s'appauvrir considérablement, et au détriment d'ailleurs l'équipe nationale, parce que ça créera un problème à terme. Donc il est plus que jamais nécessaire, puisque l'échelon des compétitions est européen, d'harmoniser d'un point de vue fiscal, social, les statuts des joueurs.
Ah, le foot, 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 le foot. Il n'y a plus que ça. Le foot, le foot, le foot, le foot. La France est foutue. Et moi, c'est le bouquet, je vis avec un footballeur. Et en plus, il joue goal. Alors, c'est short pour les ravoir au lavage. Les taches d'herbe, bonjour. C'est ce qui est le pire avec la fraise et la pêche. Surtout lui, je dis ça pendant qu'il a le dos tourné. Il est très cabot. Il plonge pour un oui, pour un non. Ça m'empêche pas de l'aimer. Même sur des petits choux, vous voyez, je lui dis baisse-toi, ramasse-les au lieu de me crotter tes shorts pour la galerie. Non, il faut qu'il plonge. Et moi, après. Comme dit Madroguis, qui se croit fine, essayez avec Homo.
À la fois, on a l'impression, à vous écouter, que finalement les joueurs de football ne sont plus du tout des sportifs, mais finalement des machines à fabriquer de l'argent et des stars finalement, au même titre que les stars du showbiz ou du cinéma. Est-ce que c'est pas là une contradiction entre finalement le sport qu'ils sont censés, le sport qu'ils sont censés effectuer et leur fonction sociale.
C'est vrai que si Pierre de Coubertin Voyez ça, il serait particulièrement choqué, puisqu'il y avait au départ les principes fondateurs à la fin du 19e siècle du sport moderne, c'était justement l'amateurisme, donc le désintéressement. L'exemple de footballeurs, Cantona et Ginola, qu'on a vu il y a quelques années pour Cantona, récemment pour Ginola, souvent faire des spots publicitaires, plus souvent que sur les terrains, et marquer des buts. Donc c'est vrai que ce sont des tremplins publicitaires pour certaines firmes. L'exemple aussi de Michael Jordan, par exemple en basket, est tout à fait flagrant. Ce sont des gens qui récupèrent une bonne partie de leurs revenus de la publicité, et puis déjà leur salaire et leurs primes sont considérables. Donc il est certain que beaucoup de joueurs sont déstabilisés et certains ont du mal à assumer leur statut de vedette et de milliardaire. D'un point de vue psychologique, dans certains cas la pression est très forte et certains ont craqué par le passé.
Football avec cette mauvaise nouvelle pour les amateurs de beaux jeux. Romario, l'attaquant brésilien, a dû déclarer forfait pour le mondial. Alors Ronaldo, il va vous manquer, je suppose.
Sim, muito beaucoup, c'est un bon joueur pour le Brésil. Romario joue pas, c'est grosse catastrophe. Comme pour la France, c'est Dugarry jouer la mondiale.
Ah, mais Dugarry va être titulaire pour la France.
C'est vrai? Alors c'est un bonne nouvelle pour le Brésil.
Du point de vue des dirigeants, vous évoquiez des grands capitaines d'industrie qui investissent dans le football, pas forcément pour rentabiliser un investissement, mais pour dans des visées politiques ou je ne sais quoi, ou même de vitrine et de publicité finalement. Mais est-ce que c'est là une généralité? Qui sont finalement les autres patrons du football?
Alors c'est vrai qu'en France ou en Europe, cette pénétration de grands groupes dans le football est quand même assez limitée. Il y a une dizaine de grandes firmes, Parmalat par exemple à Parme, donc Philips Eindhoven, Bayer à Leverkusen, la firme, donc le géant d'industrie chimique. On a vu donc le PSG, il y a le groupe McCormack qui va prendre le contrôle, donc qui a pris le contrôle de Strasbourg, qui va le prendre pour le Benfica de Lisbonne. Mais c'est quand même relativement nouveau parce que c'était très limité. Historiquement, d'ailleurs, c'est Peugeot avec le club de Sochaux qui avait lancé en quelque sorte au début du siècle cette intervention dans le milieu du football. À l'époque, d'ailleurs, Peugeot, c'était uniquement pour finalement offrir une distraction à leurs ouvriers le dimanche après-midi. C'était dans un but d'hygiène, entre guillemets, social ou de paternalisme par rapport à leurs employés. Donc, il n'y avait pas une recherche de gains financiers. Mais je crois que cette pénétration est limitée en France et en Europe par, une fois de plus, les structures des clubs de football qui permettent pas justement un retour sur investissement. Ça permet d'avoir une image de marque sympathique, de se faire connaître, mais pas d'aller plus loin dans l'état actuel des structures juridiques des clubs qui vont forcément évoluer. Et à ce moment-là, on peut craindre le pire et le meilleur. Le meilleur dans la mesure où il y aura plus d'argent dans le football, mais le pire dans la mesure où ce sera un instrument de conquête financière, de marché et de gains et de profits pour les grands groupes.
Mais ce qui veut dire que quand on prend le championnat de France de football, par exemple, comment vivent les clubs qui sont loin des 5 ou des 10 premiers? Comment générer de l'argent si on n'a pas la célébrité ou les compétitions pour effectivement servir de tremplin à une marque ou à des intérêts financiers?
C'est vrai qu'en fait, on sait très bien en début de saison que la répartition des rôles attribue à deux ou trois clubs le titre potentiel de champion de France. C'est toujours PSG, Monaco, Marseille, etc. Certes, il y a eu une exception cette année, Lens et puis Metz qui ont disputé la Ligue des Champions, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Sur une longue période, c'est ça qui est intéressant à voir, en fait, il y a très peu de surprises. Il y a eu Auxerre il y a quelques années, donc des clubs à petit budget, mais sur le long terme, c'est forcément, dans 95% des cas, des clubs qui ont les plus gros budgets, au-delà de 200 millions de francs, qui peuvent postuler pour donc la Ligue des Champions, le titre des champions de France et pour les Coupes d'Europe. Donc il y a une détermination, en fait, il y a des faire-valoir, puisqu'il faut bien 18 clubs en championnat de France de division 1, mais en fait la répartition des rôles fait que, de par les budgets, certains donc auront un titre au bout et d'autres sont là pour jouer les faire-valoir.
C'est mentalement que l'on doit s'imposer, comme l'a dit Aimé Jacquet. Car tant au plan tactique qu'au plan technique, nous les valons largement, comme l'a répété Aimé Jacquet.
Passe le ballon. On fait 1-1-2, comme l'a expliqué Aimé Jacquet.
Alors Didier, quand on est comme toi un petit peu, comment dirais-je, le capitaine de l'équipe de France, on n'a pas trop la pression?
Oh, je dirais que oui, la pression, on vit avec, comme dit Aimé Jacquet. Elle fait partie du jeu.
La dernière fois, tu m'as dit que c'était quoi, ton portable?
Bah, un téléphone.
Ah oui, j'avais oublié.
Didier
Oh, let me be your dog. Let me be your dog.
le dit Aimé Jacquet.
Alors, il y a un autre aspect qui est pas propre au football, mais enfin qui est peu répandu dans l'ensemble des sports en général, c'est l'aspect des transferts. Expliquez-nous comment fonctionnent les transferts et pourquoi ça atteint ces sommes-là. Qui en profite de cet argent finalement?
C'est vrai. Alors, c'est vrai que le système a évolué. Donc, Larry Bosman en 1995, qui est basé en fait sur les principes de libre circulation des travailleurs, donc issus du traité de Rome, a modifié la donne en Europe. Mais avant donc Larry Bosman, donc avant le décembre 95, des clubs, notamment dans les pays étrangers, puisque la France avait fait sa mini révolution en 1973, donc les clubs en Europe avaient un droit en quelque sorte de rétention des joueurs et ils étaient propriétaires à vie des joueurs. Et c'était donc eux qui déterminaient s'il y avait transfert ou pas, autrement dit s'il y avait mobilité ou pas. Et dans ce cas, donc, il y avait un versement d'une indemnité qui compensait donc le départ du joueur. Et c'est vrai que Larry Bosman, donc, autrement dit, qui interdit au club de s'attribuer des transferts lorsque le joueur est en fin de contrat, parce que maintenant il y a un contrat à durée déterminée, autrement dit 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, etc. Donc au-delà, au terme du contrat, donc le joueur est libre. Autrement dit, il n'y a plus de versement d'indemnité de transfert. Ce qui explique aussi la flambée des salaires, puisque les joueurs récupèrent la manne que les clubs avant récupérée. Ça, c'est important. Mais les clubs ont contourné Larry Bosman en faisant signer des contrats de très longue durée. Par exemple, Ronaldo ou d'autres joueurs. On parle d'ailleurs de plusieurs joueurs en ce moment là, qui signent des contrats de 7 ans ou 8 ans. On sait très bien que le joueur n'ira pas au bout. Mais par contre, le club pourra récupérer sa mise dans la mesure où il vendra 1 an, 2 ans, 3 ans avant le terme son joueur. Donc, il y a en plus des clauses de résiliation du contrat qui sont exorbitantes. En Espagne, par exemple, plusieurs joueurs brésiliens ont des clauses de résiliation de 2 milliards ou 3 milliards, donc ce sont des sommes considérables. En fait, on contourne un peu l'esprit de Larry Bosman en faisant signer des contrats de très longue durée et on verse des salaires très élevés aux joueurs pour leur faire supporter cette absence de liberté, puisque 7 ans, c'est presque une durée de carrière. Voilà un peu comment fonctionne le système, entre libéralisme et interventionnisme des clubs.
Parce que si je vous suis bien, en fait, au départ, le football était pas tellement préparé à devenir un secteur économique comme un autre, et donc avait des règles spécifiques. La loi l'a un peu rattrapé, et aujourd'hui, on essaie de contourner la loi pour justement garder cette spécificité qui permet de faire marcher le sport d'une manière très particulière.
Parce que les clubs, effectivement, ont été contre Larry Bosman, qui a été imposé par la Cour de justice des communautés européennes, puisque eux disaient, nous faisons de la formation, donc il y a un investissement très important. Quand il y a 10 joueurs formés, il n'y en a que 1 ou 2 qui deviennent professionnels. Donc, ce coût de formation ne sera plus compensé par le versement d'une indemnité de transfert. Donc c'est pour cette raison que l'esprit est contourné de Larry Bosman par la signature de contrats de très longue durée et la mise en place de clauses de résiliation qui sont énormes. Donc c'est vrai que le système est un peu perverti puisque le football a du mal à considérer que, certes, il est une activité économique, mais que toutes les implications, les incidences du traité de Rome et du droit communautaire doivent s'appliquer à lui. Il revendique une espèce d'exception sportive, d'ailleurs une démarche en ce sens de l'Union européenne de football auprès des instances de Bruxelles pour que notamment en matière de circulation des footballeurs il y ait une exception, une dérogation afin de tenir compte de ces spécificités.
Et vous, quel est votre avis justement sur la question ?
C'est vrai que il y a de bons et de faux arguments dans cette affaire. On voit pas d'un certain côté comment la liberté du travail, dans la mesure où les footballeurs sont des professionnels comme les autres, pourrait être entravée. Mais d'autre côté, il faudrait que prendre un peu exemple sur les États-Unis, qui ont mis en place des mécanismes spécifiques d'organisation des sports collectifs pour essayer de tenir compte de ces particularités. Par exemple, pour égaliser les potentiels des clubs, il y a la règle de la draft aux États-Unis qui permet d'attribuer les joueurs dans un sens inverse du classement des clubs, c'est-à-dire que le club dernier a accès aux joueurs classés premiers, tout ça pour égaliser les potentiels. Bon, mais ça, en Europe, ça n'existe pas. Il faudra que ça existe. Il y a aussi des systèmes de plafonnement des masses salariales pour égaliser aussi les potentiels des clubs. Donc c'est la même somme, la même masse salariale pour tous les clubs de basket, par exemple. Si on faisait ça en Europe, ça aussi tendance à renforcer l'incertitude du résultat. Il y a aussi un système de péréquation des recettes, où on redistribue les recettes merchandising ou des droits de transmission, la même somme pour tous les clubs. Donc ça a tendance à renforcer l'incertitude du sport, puisque c'est la base de l'intérêt des supporters, des médias ou des sponsors. Donc tous ces mécanismes-là seraient beaucoup plus puissants, à mon sens, qu'une entrave à la liberté de la circulation des footballeurs. Parce qu'en fait, un des arguments avancés par les instances du football contre Larry Bosman, c'est de dire que Cette liberté plus grande, totale, va renforcer les inégalités entre les clubs dans la mesure où les meilleurs joueurs iront dans les meilleurs clubs. Mais c'est déjà le cas bien avant Larry Bosman, puisqu'on le voit bien, toutes les grandes stars sont dans les plus grands clubs. Donc je crois que c'est un faux argument. À mon avis, l'exception sportive justifie d'autres mécanismes de solidarité, puisque c'est le paradoxe du sport. Il faut que la concurrence sportive soit très vive, mais d'autre côté, il faut que la compétition économique soit encadrée, afin qu'il y ait justement une égalisation des potentiels et des budgets des clubs.
Justement, est-ce que c'est pas là un paradoxe insurmontable que de vouloir finalement faire du sport qui, par essence, ne répond pas aux critères économiques qui existent aujourd'hui, d'en faire justement un secteur financier comme un autre ?
C'est vrai qu'il ne pourra jamais être un secteur comme un autre. D'abord parce que le sport ou le football n'ont pas été créés pour faire de l'argent. Les athlètes ou les footballeurs ont cherché leur propre satisfaction, se dépasser, vaincre l'adversaire. Donc c'était plutôt anti-économique d'un point de vue. C'était une passion intime qui relevait de non pas de l'ordre marchand, mais de l'ordre des passions individuelles. Et d'une part, et d'autre part, c'est vrai qu'on voit bien les contradictions entre l'organisation du sport et l'organisation économique. Donc on est dans une période charnière, il faudrait bien que justement en Europe, ce que les États-Unis ont fait depuis 20 ou 30 ans, on se penche sur ces questions afin de voir quelle est la meilleure organisation pour préserver une certaine éthique et en même temps pour vivre avec son temps. Parce que de vouloir exclure l'argent du sport, c'est une utopie, enfin c'est complètement inenvisageable. Mais d'autre côté, que le football par exemple soit complètement organisé autour des principes de marché, que le marché soit le régulateur et unique, la seule référence du football me paraît malsain et contre nature.
Cabinet de curiosité, le ballon rond, une autre histoire du football. Avec Jean-François Bourg, auteur de L'argent fou du foot, aux éditions de La Table Ronde, et des extraits de À mort le foot de Pierre Desproges, Les Guignols de l'info de Canal+, et Carton rose de Guy Bedos. Cabinet de curiosité, Jean-Michel Desprez, Christian Prévost, Malika Mesgache, Vincent Kivi.
Yeah!
C'était Le ballon rond, le football, un marché. Un numéro du cabinet de curiosité de Vincent Kivy et Emmanuel Hirsch, avec Jean-François Bourg. Diffusé pour la première fois le 30 juin 1998 et réalisé par Malika Mezgache.